Santé.
Santé.
Santé. Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi, Marianne Paquette. Heureuse de vous retrouver derrière ce micro, celui de l'émission « C'est bon pour la santé ». Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois, sera en visite pour nous parler d'anémie. Vous savez, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a un quart de la population mondiale qui souffrirait à un moment donné ou l'autre d'anémie. Là, ça, c'est 25 % de la population. C'est énorme. C'est un problème, c'est pas une maladie, hein, l'anémie, c'est un problème de santé, ça affecte le sang, ça se manifeste de différentes façons, il y a aussi différents types d'anémie et ça peut avoir des causes assez diverses. Jocelyne sera là pour nous aider à mieux comprendre c'est quoi l'anémie, mais aussi à tenter de prévenir et de se traiter. Vous savez vous dire que depuis quelques années, les machines robotisées ont fait leur entrée, en particulier dans les établissements de santé pour assister, accompagner les professionnels de la santé. On peut voir aussi la robotique au service des gens afin d'améliorer leur qualité de vie. Je pense ici au bras Jaco de la compagnie Kinova. On en a parlé assez souvent ici sur nos ondes. Donc, accompagner des personnes dans le besoin qui vivent avec des réalités différentes. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que les robots investissent aussi les centres de réadaptation, du moins à Verdun, à Montréal. Nous, on peut se vanter ici au Québec d'avoir des robots dans un centre de réadaptation qui s'appelle NeuroConcept. En fait, il y a un robot de marche dans ce centre-là. C'est le premier du genre au Canada, le troisième seulement de ce type-là en Amérique du Nord. Pour en savoir davantage, Cindy Gauthier, cofondatrice de ce centre et également physiothérapeute, est avec nous, également avec l'une de ses clientes, Francine Deshaies. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Cindy, Francine. Francine, vous vivez avec la sclérose en plaques. Et je trouvais que c'était important de le nommer d'entrée du jeu parce que NeuroConcept, avec le robot de marche, ça, on peut se l'imaginer assez facilement, ça révolutionne la façon de faire de l'activité physique. Pour vous, comment ça a changé cette approche-là? Donc, étiez-vous active avant le mois de juin, l'ouverture du centre?
Oui, j'étais active auparavant. Par contre, j'ai dû subir une opération aux deux pieds qui a fait que j'ai été immobile pendant un an. Donc, tout était à recommencer et je ne savais pas vraiment si j'étais capable de le faire. Heureusement qu'il y a eu NeuroConcept pour m'aider avec le robot. C'est ça qui a aidé à refaire ma masse musculaire. Puis là, maintenant, je suis au gym adapté, puis je fais du robot pas mal toutes les semaines.
Vous avez l'air en pleine forme, en tout cas.
Je suis en forme.
Cindy, ça vient... Bon, vous êtes physiothérapeute, c'est votre boulot premier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit « j'ai envie d'ouvrir une entreprise et de démarrer un tout nouveau concept »
Mais en fait, il y a eu deux constats qu'on a fait, ma partenaire Muriel Grandjean et moi. Premièrement, c'est le manque de ressources. Soit les gens, ils sont en réadaptation fonctionnelle intensive, ils ont beaucoup de réadaptation, puis une fois qu'ils ont atteint les objectifs fonctionnels, on les retourne à la maison. Mais ces gens-là vont avoir une baisse d'activité physique, des fois ils peuvent tomber malades, puis ils peuvent perdre des capacités par la suite. Mais ils n'ont plus accès par la suite à la réadaptation pour retrouver ou pour au moins maintenir leurs acquis. Puis, il y a aussi une certaine partie de la population avec des limitations fonctionnelles qui n'ont juste pas accès à ces services-là. Comme le cas de Francine, les maladies dégénératives, souvent, il n'y aura pas de suivi parce que ça va être un processus qui est à long terme.
Ouais.
Mais on peut éviter ou on peut diminuer, en fait, la perte des capacités en faisant des programmes d'exercice, des climes, tout ça, appropriés à chaque personne. Ces gens-là, souvent, ils n'ont pas les ressources. Donc là, ça a été notre premier constat. Il faudrait pouvoir offrir la réadaptation à cette population-là. Puis Muriel et moi, on vient du milieu de la recherche. Moi, je suis candidate au doctorat en sciences de la réadaptation en ce moment. Puis Muriel a fait son post-doctorat en sciences de la réadaptation. Puis on voyait beaucoup de choses dans les congrès, beaucoup de technologies, puis vraiment des belles avancées. Il y avait des beaux progrès et tout. Ça permettait de faire des choses que, des fois, en tant que thérapeute, avec juste nos mains, on ne peut pas. Puis
ouais.
Donc... c'est difficile aussi d'emmener la technologie. C'est un long processus d'emmener la technologie à la clinique. Puis au niveau public, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que là, nous, on s'est dit, bien, on a envie aussi de pouvoir offrir cette possibilité-là, offrir cette technologie-là à ces gens-là pour essayer de potentialiser un petit peu leur réadaptation.
Donc, le troisième en Amérique du Nord, vous dites que vous avez beaucoup voyagé, que ce soit dans des congrès ou d'autres rencontres avec des professionnels. Est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives ailleurs dans le monde pour des robots de marche dans des centres de réadaptation?
Oui, en fait, en Europe, le robot vient de Suisse. En Europe, c'est un petit peu plus étendu. Moi, j'ai parlé avec des gens, des Français, qui ont ça dans les centres publics. En France, tout est pris en charge par la société. Fait qu'il y en a dans certains hôpitaux. Il y en a en Suisse, bien sûr, et tout. En Europe, il y en a un petit peu plus. Ici, il y avait des centres comme ça aux États-Unis. Mm-hmm. Puis, il y a un centre sur lequel on s'est un petit peu inspiré à Toronto, qui s'appelle M2Walk. Puis qu'eux aussi, eux, il y avait le Locomat, qui était un autre type de robot que Marie-Enfant ont. Mm-hmm. Là, nous, on a été aux États-Unis, on a été voir un hôpital qui avait les deux. Puis on a fait un choix en parlant avec les professionnels de la santé là, puis aussi avec, en regardant bien la technologie. Puis on a fait un choix sur le Geo-système.
Donc, c'est le nom de ce robot marche. Vous disiez quelque chose d'intéressant, Cindy Gauthier, à savoir que ces maladies, qu'elles soient neurodégénératives ou de d'autres types, sont des maladies à long terme et on ne sait pas de quelle façon elles vont évoluer. Est-ce que, Francine, bon, dans votre cas précis, c'est la sclérose en plaques, vous avez eu l'impression d'être pris comme un cas unique, comme une personne derrière la sclérose en plaques?
Exactement. Moi, on m'a pris en charge tout de suite. On a su vraiment cibler mes besoins. Puis on est parti je faisais pratiquement plus rien là, avec mes jambes. Puis on est parti du petit peu qui fonctionnait. Puis là, on a étendu ça. Puis là, on m'a fait faire du robot. On m'a fait faire les bons exercices. Puis là, maintenant, j'ai commencé à refaire du tapis roulant. Puis je fais d'autres exercices aussi. Là, puis ça m'a remis en forme. Parce qu'il n'y a pas de secret, là. Sans exercice, on n'ira nulle part, là. Puis la sclérose en plaques, c'est à vie, donc il n'y a pas de secret, là.
Ce que je comprends, c'est qu'on est parti, Cindy et Muriel sont partis de vos forces.
Oui, exactement. Puis c'était très motivant, d'ailleurs. Mm-hmm. Au lieu de dire, toi, tu ne peux pas faire ça, 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 c'était le contraire. Ah, ça, ça bouge, ça, ce muscle-là va bien, on va focusser là-dessus, puis on va partir de là, puis c'est très... C'est très motivant aussi.
Oui. Ce que je pense qui est important pour vous, Cindy, c'est de bien dire à votre clientèle qu'il n'y a pas de miracle. Vous n'avez pas une petite baguette magique et dire, OK, dans deux semaines, vous allez marcher.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent avec cette impression-là. Nous, on le dit dès le départ, qu'il n'y a pas de miracle. Il y a des choses qui pourront juste pas être possibles. Dans le cas d'une personne qui est paralysée complètement à cause d'une lésion médulaire complète, on leur dit bien, vous n'allez pas remarcher. Par contre, on peut travailler d'autres choses. Mmh. Est-ce que vous... Tu sais, puis là, on voit avec eux... c'est sûr que nous, on fait une évaluation, puis on voit les déficits, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'il y a du potentiel, puis on discute avec la personne, qu'est-ce qui, pour toi, est significatif dans ta vie, qu'est-ce que tu voudrais travailler le plus. C'est l'équilibre pour pouvoir atteindre des objets ou sans tomber, mais on va focusser là-dessus. Le robot est un des outils qu'on peut utiliser parce que ça fait même travailler l'équilibre la personne, puis ça peut être transposable quand elle est assise. Si c'est une personne qui est tout le temps en fauteuil roulant, même si on les fait marcher sur le robot, il améliore quand même leur équilibre parce que ça fait travailler le tronc et tout, puis on peut même travailler les bras pendant qu'ils sont sur le robot. Mais c'est ça, on voit vraiment avec eux leurs besoins, puis qu'est-ce qu'on peut travailler avec eux, puis on leur fait un programme vraiment de thérapie qui est adapté à leurs besoins.
Donc, c'est la façon de fixer les objectifs, vraiment en demandant qu'est-ce qui est important pour vous. Pour vous, Francine Dès, qu'est-ce qui était important au départ lorsque vous avez commencé à vous entraîner chez NeuroConcept?
Bien, je voulais recommencer la marche. Je voulais avoir plus d'équilibre. Je voulais optimiser ma qualité de vie, bien entendu. Ouais. Je voulais améliorer ma posture. Je voulais pas faire trop d'ostéoporose. Puis ça, en un an, ça s'est bien... J'ai eu des bienfaits de tout ça, là. Mm-hmm. À part de ça, j'ai la force musculaire, l'équilibre, moins de douleurs aussi, parce que quand on ne bouge pas, on a des douleurs.
C'est vrai.
C'est niaiseux, mais au niveau de la constipation, ça a un effet également. Ainsi, surtout, de lutter contre la spasticité. Ça, c'est terrible. En tout cas, mon cas, là, c'est pas chaque sclérose, une personne, c'est différent, là, mais la spasticité, c'est pour plusieurs.
Qu'est-ce que c'est, Francine?
C'est des raideurs dans les jambes. Mmh. c'est ça, les genoux qui ont de la difficulté à plier, etc. Puis je le fais quand, après mes exercices, ça va toujours bien. Donc, comme je le dis toujours, il faut bouger. C'est la seule option que l'on a avec, en tout cas, souffrant de sclérose en plaques, là, c'est sûr et certain que... Puis il n'y a pas peu importe si tu es assis dans une chaise roulante ou quoi que ce soit, il y a des moyens de faire bouger aussi. Puis eux sont tous équipés pour ça, là, d'avoir un neuroconcept. Donc.
Et tout ça dans le but de vous occuper de vos petits-enfants, Francis.
Oui, exactement, les beaux jumeaux.
Parce que c'est ça aussi, lorsque l'on parle de qualité de vie, pour une personne, ça peut être d'attraper un verre, d'attraper un crayon, d'autres de pouvoir jouer avec les petits-enfants. Donc, ça revient à cette façon de fixer des objectifs bien précis pour chaque personne. Il n'y a pas que le robot chez Neuroconcept, Cindy.
Non. En fait, on a une équipe de physiothérapeutes puis de kinésiologues. Donc, puis on fait de la physiothérapie conventionnelle, comme on pourrait retrouver en réadaptation.
Avec d'autres types d'outils ou de machines.
Oui, puis on a aussi des outils vraiment standards, des machines d'entraînement qu'on peut retrouver dans les gyms comme vous... Vous et moi, on fréquente, mais souvent, ces gyms-là ne sont pas adaptés. Les machines sont très collées ou une personne avec une marchette, par exemple, ou fauteuil roulant ne peuvent pas accéder. Mais nous, nos machines sont espacées, les bancs sont amovibles, fait qu'une personne en fauteuil roulant peut s'installer avec son fauteuil roulant, pas besoin de transférer. Puis on a des choses plus adaptées. On a pour les gens qui n'ont pas de préhension, donc on a des courroies après les sacs de poids, on a tout réfléchi à nos appareils.
Puis c'est un bon effet pour le vasculaire, au niveau vasculaire aussi, ce qui est très important aussi.
Mm-hmm. Mais si je comprends bien, il y a de l'espace chez Neuroconcept.
Ah oui, vraiment.
Oui. Et ça, ben, c'est dans les détails, mais c'est vrai que je n'y aurais pas pensé d'entrée de jeu, de dire, OK, il faut de l'espace, si quelqu'un est en fauteuil roulant, s'il y a une marchette. Donc, il y avait beaucoup de petits détails auxquels penser. Maintenant... Bon, lorsqu'on pense à neuroconcept, on parle aussi de neuroréadaptation, de robothérapie aussi. J'ai lu, qu'est-ce que ça signifie, ces termes-là?
Mais la neuroréadaptation, c'est comme ça que nous, on l'a appelé, mais en fait, c'est de la réadaptation pour des gens qui ont des atteintes neurologiques. Fait que, un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, une lésion de la moelle épinière, fait que les gens qui sont paraplégiques, tétraplégiques, les gens qui ont le Parkinson, la sclérose en plaques, les enfants, donc ça peut être la paralysie cérébrale, le spina bifida. Donc,
clientèle assez vaste.
Oui, c'est une clientèle très vaste.
Avec les enfants, ça se passe comment? Ça peut être assez attrayant, le robot et ses équipements très, très technologiques?
On n'a pas beaucoup d'enfants pour l'instant. On a des adolescents plus que des petits-enfants. Puis oui, ils aiment vraiment beaucoup ça. Mais je vous dirais que peu importe l'âge, les gens, ils ont un beau sourire quand ils se mettent debout. Puis surtout quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été debout, qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Des fois, ce n'est pas sécuritaire de le faire à la maison. Là.
Oui, c'est vrai.
Donc, ils peuvent se mettre debout de façon sécuritaire, puis ils peuvent avoir un patron de marche qui est normal. Puis en plus, nous, on a mis un miroir devant, donc on peut... ils peuvent se voir debout, ils peuvent corriger leur posture. Mm-hmm. Que, habituellement, la première réaction des gens, on voit des beaux grands sourires, là, peu importe l'âge.
C'est quoi la réaction de quelqu'un qui vit peut-être avec une tétraplégie et qui se voit debout devant un miroir?
Bien, il y en a qui sont émotifs, puis... mais ils sont vraiment contents. Puis surtout, après aussi, c'est quand même un exercice beaucoup. Là. Même si les jambes ne contractent pas, ils vont travailler beaucoup le haut du corps, le tronc et tout, là, puis ça fait un bon entraînement. Là. Quand ils sortent du robot, là, ils ont un sentiment de satisfaction. Là, souvent, là, ils disent « Hey, je me suis dépensée, là, j'ai donné toute mon énergie, c'était super le fun. Mm-hmm. »
Si j'entends bien, Francine, le robot, au tout départ, c'était pas intimidant pour vous?
Pas du tout. J'avais très hâte. Je me disais « Enfin! » Quelqu'un a pensé à nous pour pouvoir être capable de continuer à être mobile, enfin. Parce que sur le robot, au début, je faisais... on fait environ 1200 pas, corrige-moi, on peut aller plus que ça. Mais quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait 1200 pas, là, c'est quelque chose. Là. Fait que on devient motif, oui, on pleure de joie parce que c'est...
Puis et de fierté.
Puis après ça, tu le fais soit en mode passif ou actif. Mais quand tu es rendu en mode actif, c'est encore plus valorisant. Mm-hmm. Puis ça se fait petit à petit. Puis,
Est-ce que les objectifs se modifient pendant le parcours?
Oui. Moi, mes objectifs ont changé déjà. Puis ça fait pas un an que j'y vais. Là. Donc, mais on met pas de pression. Là. Mm-hmm. Moi, je veux rester mobile. C'est ça, ce que je veux là, le plus. Là. Pour le reste, tant mieux, mais je ne me mets pas de pression inutile.
Rester mobile, rester motivé.
Oui, oui. Puis la motivation, si on l'a, dès qu'on entre là-bas, c'est, on ne se fait pas regarder comme certains endroits où on va, on dérange. Là. Mm-hmm. Pas là-bas, au contraire. Là. Mm-hmm. Ils sont heureux de nous accueillir.
Puis si je peux ajouter, en tant que professionnel de la santé, nous, on se doit d'offrir un service, d'offrir une réadaptation. Donc, en fait, les objectifs puis se modifient au jour le jour. Mm-hmm. À toutes les fois qu'on voit une personne, on va réévaluer où est-ce qu'elle en est rendue, est-ce qu'elle a amélioré un des objectifs qu'on voulait, un des paramètres qu'on voulait améliorer. Puis on modifie toujours les thérapies pour être le plus efficace puis pour la personne, pour vraiment atteindre ses objectifs le plus efficacement puis le plus rapidement possible. Donc, puis on en discute tout le temps à la personne, là, puis on dit, OK, là, on a atteint ça, là, c'est super, tu as réussi à faire ça. Maintenant, la prochaine étape, là, on se fixe ça comme objectif. Puis là, on voit les gens qui progressent, puis ça, c'est vraiment...
Être efficace, être réaliste aussi, j'entends.
Oui, toujours, ben oui.
Oui. Il faut, pas nécessairement, il faut, c'est peut-être pas la bonne façon d'approcher la question. Vous y allez, par exemple, vous, Francine, combien de fois par semaine chez NeuroConcept?
De 2 à 3 fois par semaine, puis j'ai des exercices que je fais aussi à la maison. On m'a appris à faire certains exercices d'étirement à la maison aussi.
De façon sécuritaire, pour éviter ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, comme quoi des fois de le faire sans encadrement à la maison, ça peut être dangereux. Ça encore là, c'est du cas par cas, j'imagine, Cindy, le nombre de fois où on a rendez-vous chez NeuroConcept.
Oui, mais on en discute avec les personnes, c'est sûr. On va avec les objectifs. Si c'est juste du maintien ou c'est pour des effets pas nécessairement de récupération, on va voir avec la personne qu'est-ce qui est optimal. Si on veut que ça soit une récupération plus rapide, on va dire plus de fois, mais on s'attend à ce qu'à un certain moment, il y ait une fin. Qu'on en discute avec la personne. Comme on est un centre privé aussi, il faut voir avec le budget de la personne. Fait que nous, on en discute toujours honnêtement avec la personne. Qu'est-ce que nous, on pense? Puis qu'est-ce que eux ils voudraient, comment ils voient ça. Puis il y a des gens aussi qui ont un niveau d'énergie qui n'est pas très grand. Fait qu'il faut faire attention avec ça. On ne veut pas les épuiser puis qu'après, à la maison, ils soient plus fonctionnels. Fait qu'il faut tout le temps vraiment voir... on propose, on dit on va essayer ça comme ça pour les prochaines semaines. Puis si ça fonctionne bien, on pourra soit augmenter, soit diminuer, dépendamment vraiment des besoins.
Besoins, services privés, est-ce que ça convient à toutes les bourses? Est-ce qu'il y a des plans de financement? Comment vous approchez ça avec votre clientèle?
Mais en fait, on a baissé nos prix de qu'est-ce qui était au départ pour vraiment être le moins cher possible, mais en restant pouvant payer nos charges.
Oui, bien sûr.
Donc, puis on s'est basé aussi sur les barèmes qu'il y avait une étude sur les cliniques privées de physiothérapie sur l'île de Montréal puis au Québec. On a essayé d'être dans le range, la limite...
Dans les paramètres.
La limite inférieure des prix pour se caler avec qu'est-ce que les gens paieraient dans d'autres cliniques de physiothérapie.
Mm-hmm. Et en même temps, vous nous disiez tout à l'heure à micro fermé, Francine, encore là, c'est très adapté selon le budget. Autant vous vous occupez des besoins de santé, il y a aussi les besoins du point de vue de l'économie.
Ils s'occupent de ça aussi parce que moi, ils m'ont fait un plan parce que quand on ne travaille plus, l'argent ne pousse pas dans les arbres, là, naturellement. Alors moi, je fais du gym adapté, donc c'est un prix fixe pour le mois. Puis quand j'ai les sous, je fais le robot ou je fais autre chose, là. Puis c'est très, très bien adapté à toutes les bourses, là, finalement.
Si je peux ajouter, en fait, comment on fonctionne aussi, c'est que si les gens peuvent faire... Ça dépend vraiment de la personne, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas faire des exercices à la maison, mais quand ils peuvent faire des exercices à la maison toute seule, nous, on leur donne un plan d'exercice, on leur montre des exercices. Puis quand ils viennent chez nous, on fait vraiment des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs pour être efficaces. On ne veut pas que les gens payent pour rien non plus. Donc, ils font les choses qui ne retrouveront pas ailleurs. Certains ont de la physiothérapie ailleurs, de la physiothérapie conventionnelle, mais ils viennent au centre quand même. Nous, on ne va pas vous proposer de physiothérapie conventionnelle, vous vous en faites déjà. Des fois, même, ils ont accès avec le service public. Ils disent, regardez comme ça, on va juste faire, mettons, la marche sur le robot de marche, ou on a un vélo à simulation électrique fonctionnelle. Fait que c'est des choses qu'ils n'ont pas ailleurs. Pour vraiment... qu'il y ait les services
les plus complets,
mais oui. Ça...
En tout cas, lorsqu'on vous regarde, Francine Dehaene, vous avez l'air en pleine forme. On se dit que cet investissement en vaut la peine. On vous souhaite beaucoup de temps, de bon temps chez NeuroConcept. Neuro-concept.ca, Cindy Gauthier, physiothérapeute, Francine Dehaene. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Roselyne.
Bonjour Marianne. Je t'appelais Marielle ce matin.
Oh, c'est pas tout à fait mon prénom.
Non, Marianne.
Je n'ai pas changé de prénom. Roselyne Gadebois, merci d'être là malgré le grand événement qui s'en vient. Vous allez être nouvellement, une fois de plus, grand-maman.
Une fois de plus, oui. Grand-maman, oui, tout à fait.
Mais pour le moment, on parle d'anémie.
On parle d'anémie.
Qui touche beaucoup de gens, hein?
Oui,
je lisais 25% de la population mondiale.
Oui, absolument. C'est une maladie qu'on rencontre fréquemment, très fréquemment.
Et j'ai l'impression davantage de femmes.
Oui, davantage de femmes. Pourquoi? Parce que, les femmes enceintes sont les premières personnes ciblées. On leur donne un apport de fer, d'acide folique, etc. Et les règles menstruelles chez les femmes, très, très abondantes. Les femmes chez qui elles sont très abondantes sont les plus à risque.
Il y a aussi un volet héréditaire à l'anémie. Donc, si notre grand-mère, notre mère en a souffert, on a plus de risques de vivre avec ça.
Oui, il y a un facteur d'hérédité. Et le facteur héréditaire le plus marqué, c'est l'anémie calciforme, présente surtout chez la population noire, de façon génétique. Alors, l'anémie calciforme, c'est une maladie qui est difficile aussi à traiter et qui est très douloureuse pour les personnes qui l'ont. Alors, les personnes haïtiennes, les personnes de l'Afrique sont à risque, dans celle-ci particulièrement. Toutes les personnes aussi qui ont des maladies chroniques, dont une atteinte à la moelle osseuse.
OK.
D'accord? Parce que c'est là que se forment nos globules rouges,
l'hémoglobine,
dans la moelle osseuse de tous nos os. Alors, si on a un problème de moelle osseuse, on va avoir une carence en globules rouges. Mmh. En fait, l'anémie, c'est une carence de globules rouges ou une malformation des globules rouges, mais les globules rouges qui contiennent l'hémoglobine ne peuvent plus transporter l'oxygène à tous les organes.
Ah, voilà. Donc, dans notre sang, les globules rouges favorisent la circulation de l'oxygène.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc, si on fait de l'anémie, il y a moins d'oxygène qui circule.
Oui, ou encore, la cellule rouge, elle est vraiment difforme et l'hémoglobine a un problème pour capter le fer qui contribue à transformer l'hémoglobine, là, à transporter le fer aussi et les acides foliques partout dans le corps où on en a besoin.
Ce qui explique que souvent la personne anémique est fatiguée.
Voilà. Alors, quand on rentre dans les signes et manifestations de l'anémie, c'est souvent le premier signe. Je suis donc fatiguée.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais je suis donc fatiguée. Une pâleur du teint, effectivement. On a également un essoufflement marqué à l'effort. C'est typique de l'anémie. L'essoufflement, le cœur doit battre plus fort pour apporter plus de sang, plus de cellules rouges pour mieux nourrir, parce que la cellule, elle ne joue pas son rôle normalement, ça en prend plus. Mm-hmm. Et également, dans les symptômes, on a les mains, les pieds froids. Les personnes qui ont les mains et les pieds froids tout le temps, puis qui sont fatiguées, qui ont le teint pâle, devraient consulter leur médecin.
Et ça, et le diagnostic se fait avec une prise de sang?
Oui, avec des prises de sang et l'association de tous les symptômes, oui. Évidemment. Si on a une grosse hémorragie ou une maladie à signe hémorragique, comme des fois des problèmes d'intestin qui saignent un petit peu à la fois, mais longtemps, ça peut créer de l'anémie. Les personnes âgées sont susceptibles d'avoir ce genre de problème-là également, mm-hmm. parce que leur métabolisme est plus lent.
Est-ce que ça se soigne, l'anémie?
Mais oui, ça se soigne. Ça se soigne beaucoup par l'alimentation ou des suppléments à l'alimentation, soit du fer, soit de l'acide folique et la vitamine B12, mm-hmm. tout à fait. Alors, on retrouve ces nutriments dans les viandes rouges, dans les poissons, dans les volailles. On retrouve l'acide folique particulièrement dans les abats, dans les légumineuses et dans les feuillus, les légumes feuillus verts foncés. Mm-hmm. Exactement.
Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, Jocelyne, que les personnes végétariennes ou végétaliennes sont plus à risque de souffrir d'anémie?
Bien, quand on décide d'opter pour ces modes de vie, je dirais qu'on doit s'informer. Mm-hmm. Parce que avec les légumineuses et les sources oui. d'aliments, on doit combiner nos aliments pour avoir une alimentation complète. Alors, les personnes qui suivent les règles de base du végétarisme ne sont pas sujettes à l'anémie. Mm-hmm. Mais il ne faut pas dévier de bien balancer notre nourriture. Mm-hmm. Exactement.
Est-ce qu'il peut y avoir des risques importants pour la santé?
Si on a des risques importants au niveau de l'anémie, bien, on ne fonctionne pas bien. Et puis, on a vraiment un cœur qui travaille trop fort pour ce qu'il est capable de faire, on peut avoir de l'insuffisance cardiaque. Et quand on a de l'insuffisance cardiaque, un cœur fatigué, bien, c'est un risque à l'effort oui. de faire des infarctus.
Et on prévient en s'assurant d'avoir une alimentation variée?
Absolument. C'est okay. l'alimentation qui est la base de tout.
Bon. Bien, en plus, c'est plein de bonnes choses que vous nous avez énumérées.
Absolument. Alors, une alimentation équilibrée, riche en fer, en acide folique.
Jocelyne Gadbois, toujours un plaisir, toujours court, mais toujours si bien expliqué. On souhaite un bon courage à votre fille et un
mais
beau
oui.
bébé en santé.
Oui.
Petit garçon, petite fille?
Petit garçon.
Il s'appellera?
On ne sait pas.
Bienvenue à ce bébé, alors. Merci,
oui.
Jocelyne.
Au revoir.
Merci, Jean-Sébastien Laliberté, derrière la console. C'est Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye-bye.